Bienvenue à Question d'Info. Quelle place, quel rôle et quel objectif pour l'extrême gauche à la présidentielle? Invitée de Question d'Info aujourd'hui, Nathalie Arthaud, la porte-parole de lutte ouvrière et également candidate à l'élection présidentielle. Et à mes côtés, pour vous interroger, Madame Arthaud, Françoise Fressoz du Monde, Sylvie Maligan de l'AFP et Marie-Ève Malouine de France Info.
Alors, l'auteur des tueries de Montauban et Toulouse se revendique d'Al-Qaïda. Il veut venger les enfants palestiniens. Il voulait viser l'armée française qui est présente à l'extérieur. Comment est-ce que vous réagissez à cette forme de revendication pour l'instant?
Moi, je crois que c'est surtout un psychopathe, qu'il faut quand même être vraiment dérangé psychologiquement pour aller devant une école, pourchasser des enfants, les abattre, voilà. Alors après, effectivement, il se revendique de cela. Je ne suis pas sûre, moi, que s'il n'y avait pas eu effectivement la présence de l'armée française en Afghanistan ou cette guerre permanente en Israël et en Palestine, je ne suis pas sûre qu'il n'aurait pas commis d'autres actes criminels. Enfin, ça, c'est difficile de le dire.
Un lien ou pas de lien?
C'est difficile de le dire. Ce que je crois, c'est que voilà, en réalité, il y a effectivement des terreaux, il y a des conflits, la violence évidemment dans la société, et tous les psychopathes peuvent cristalliser leur acte autour de cela.
C'est un psychopathe, voilà. C'est pas
difficile.
Une action politique pour vous?
Ah, je crois pas, je ne crois pas, et dans tous les cas effectivement aucune, en tout cas moi j'ai la détestation évidemment de toutes ces actions-là,
vous
terroristes, et de toutes ces idées-là, hein, qui sont effectivement à la base de ce genre d'actes.
Est-ce que vous, pour reprendre ce que disait ce terroriste, cet assassin, est-ce que vous comprenez que l'on veuille venger les enfants palestiniens et que l'on veuille aussi s'en prendre à l'armée française du fait de sa présence en Afghanistan?
Ah, mais je comprends en aucune façon cette tuerie, ces actes qui ont ciblé en l'occurrence là des enfants innocents. Voilà, maintenant c'est évident aussi, et c'est ce qu'on ne pourra pas combattre, ce genre d'événements avec une politique sécuritaire, parce que la réalité, c'est qu'effectivement il y a un terreau à tout cela, et on peut pas non plus imaginer que des régions du monde soient à feu et à sang sans que un jour ou l'autre ça nous revienne aussi finalement dans la figure d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, je crois qu'il y a aussi un effet boomerang quand même de ce qui se passe à l'échelle du monde.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que quand la France mène des guerres aux quatre coins du monde, il faut pas s'attendre à ce que nous soyons, nous, complètement isolés du reste des choses. Ah, moi, je suis absolument contre la guerre menée en Afghanistan. Je suis contre que l'armée française soit présente en Afghanistan, de la même façon que j'étais contre qu'elle aille en Libye, qu'elle soit présente en Côte d'Ivoire et qu'elle ait des bases militaires. Effectivement, tout cela, c'est quand même au nom des intérêts des capitalistes français, c'est au nom de l'impérialisme, toute cette présence-là. Alors, évidemment, ça suscite et ça cristallise des haines, ça... voilà, il ne faut pas ensuite s'étonner, hein, que d'une façon ou d'une autre, cela réapparaisse, y compris pour tuer des innocents qui n'y sont effectivement pour rien.
Mais vous dites il faut pas s'en étonner, c'est un peu en contradiction avec ce que vous disiez au début. Au début, vous disiez c'est un psychopathe, et là, vous dites il ne faut pas s'en étonner.
Bah, je crois que, je crois que ça s'exprime là, au travers d'un tueur fou, au travers d'un fou de Dieu, enfin je ne sais pas comment il faut l'appeler, hein, ce jeune homme, ou que ça apparaisse effectivement avec des actes terroristes signés Al-Qaïda, organisés, pensés, réfléchis, etc. Ça revient au bout du compte au même. Dans tous les cas, je crois que, bah, moi je ne vois pas comment on pourra empêcher effectivement la folie meurtrière, hein, individuelle de s'exercer. C'est bien difficile, mais ce qui est sûr, c'est que cette société, elle fomente effectivement des guerres, elle fomente de la violence, elle fomente du rejet, du dégoût. Notre société, la société évidemment capitaliste, avec ses inégalités, avec ses guerres, avec ses injustices, d'un bout à l'autre de la planète.
Alors, une autre candidate qui est Marine Le Pen veut déclarer la guerre au fondamentalisme musulman. Vous pensez quoi, qu'elle a tort, que
je pense que oui, c'est hors de propos, et surtout on voit bien l'instrumentalisation qu'elle va en faire. C'est du pain béni pour elle, hein, pour Marine Le Pen. Eh bien, parce que ça va être voilà la mise en avant de la politique sécuritaire, ça va être la mise en avant effectivement de tous ces préjugés contre l'islam, ça va être la mise en avant aussi de la peine de mort, hein, ça va être tout ça.
Problème du tout de fondamentalisme.
Moi, je le combats, je le combats le fondamentalisme et je combats l'intégrisme, d'ailleurs de toutes les religions, hein, parce que de ce point de vue-là, des fous de Dieu, il y en a dans toutes les religions, et des criminels de ce type-là, il y en a dans toutes les religions, vraiment.
Le jeune homme en question, apparemment, a fait plusieurs séjours au Pakistan,
oui,
justement.
Oui, je l'ai bien entendu, mais moi je le dis, justement, le fondamentalisme, il n'est pas réservé à aucune religion, ça c'est pas vrai, et je vois bien qu'elle va effectivement chercher à faire son beurre là-dessus, hein, et que la campagne, elle va essayer de la pousser sur ce terrain-là. Mais moi, je ne crois pas qu'aucune politique sécuritaire change les choses, dans la mesure où on ne change pas, y compris, où on ne combat pas, hein, ce qui peut être à l'origine, en tout cas, ce qui peut cristalliser effectivement ce genre d'actes fous, qui sont effectivement la présence, hein, de l'impérialisme français aux quatre coins du monde, qui sa domination.
Et alors, il y a un contre-argument qui est avancé par un certain nombre de gens qui ne pensent pas comme vous, qui disent ce qui s'est passé à Toulouse et à Montauban prouve justement que il est important que l'armée française soit présente en Afghanistan.
Ah bon? Bah, écoutez, je ne sais pas qui dit ça, mais en tout cas, l'armée
pour
française...
Pour lutter contre le terrorisme, notamment.
Ah oui, ah bah, écoutez, le résultat est quand même fantastique au bout de 11 ans de guerre. Hein, le résultat est quand même fantastique. Écoutez, l'Afghanistan, aujourd'hui, vit un enfer. Les talibans ressortent de partout, se sont renforcés en réalité. On a semé la désespérance, la misère en Afghanistan. C'est quand même l'Afghanistan, mais c'est quand même l'aveu d'un échec criant. Et regardez les Américains qui cherchent à négocier aujourd'hui avec les talibans, qui vont finalement les remettre en selle, parce qu'en réalité, ben voilà, il n'y a pas d'autre solution, parce qu'ils ont repris tellement de force, finalement. Donc non, c'est le contraire, justement. C'est l'exact opposé.
Françoise Fressoz.
Alors, au vu du dénouement de l'affaire, est-ce que vous regrettez pas un peu vos paroles où vous avez dit « je dénonce cette comédie d'Union nationale » Vous revendiquez toujours?
Ah ben, plus que jamais.
Pourquoi?
Plus que jamais, ben parce que justement... Regardez l'Union nationale à laquelle on nous appelait hier. Regardez aujourd'hui ce que ça veut dire. Et moi, ça veut dire être derrière Marine Le Pen. Ça veut dire être derrière M. Guéant, être derrière M. Sarkozy, qui vont effectivement faire leur chou gras, encore une fois, sur le thème de la politique sécuritaire.
M. Guéant qui a quand même dit que la preuve que les services policiers, les services de police servaient à quelque chose, que cet homme qui a été donc mis hors d'état de nuire à Toulouse était suivi depuis des années par la DCRI.
Oui, non, mais voilà, on va avoir effectivement une autosatisfaction,
c'est ça, ce qui change
le retour
la campagne,
de la
c'est
politique
ça, c'est la
sécuritaire.
Sécurité.
Et là, vous voyez, ils vont tous effectivement, alors là, ils vont tous effectivement chanter leur petite chanson qu'on connaît bien. Et justement, moi, ce n'est absolument pas la mienne. Je ne me reconnais
c'est quoi,
pas.
C'est quoi la petite
je
chanson?
Je ne me reconnais pas dans tout ça. Eh bien, c'est cette politique sécuritaire. Et y compris, on va voir revenir les insinuations, les allusions, effectivement, à ceux qui mettraient en danger l'ordre, la paix du pays. On va voir revenir tout cela. Vous savez, moi, je me suis jamais reconnue et j'ai toujours pris le contre-pied de tous les propos de Guéant, de Nicolas Sarkozy, de Marine Le Pen, évidemment, qui divisaient les travailleurs en fonction de leur nationalité, de leur origine, de leur religion. Ces propos qui nous disaient quand même, il y a quoi, 15 jours de cela, qu'il y avait trop d'étrangers en France. Trop d'étrangers. Pourquoi trop d'étrangers en France, hein? Donc non, moi, j'ai toujours pris le contre-pied de cela et ce n'est pas parce que j'étais comme... beaucoup d'autres, et comme je crois tout un chacun, profondément touché et horrifié par ce qui s'était passé, que je me sentais l'obligation d'entrer dans cette comédie, effectivement, d'union nationale. Et là, on voit que cette comédie, elle vole en éclat aujourd'hui.
Vous dites entrer dans cette comédie, ça veut dire que les candidats à la présidentielle, donc notamment François Hollande, Eva Joly, Nicolas Dupont-Aignan, François Bayrou, qui se sont rendus à la cérémonie à Montauban cet après-midi, ont eu tort de le faire?
Ben je crois qu'ils jouent une comédie, effectivement, et que très vite, en réalité, d'ailleurs, on a entendu François Bayrou attaquer frontalement, remettre en cause, y compris les propos de Nicolas Sarkozy, le discours qu'il avait tenu à Grenoble. Donc tout ça, c'est vraiment, c'est une comédie qui, je dois l'avouer, me dégoûte. Parce que justement, face à cet acte barbare, face à cette douleur, face à cette révolte, et bien voir cette instrumentalisation... moi ça m'écœure.
Quand vous parlez de comédie, c'est la comédie de qui vous dégoûte?
Vous savez, on nous a expliqué que la campagne était suspendue. Mais c'est pas vrai. Depuis le début, tous les gestes, tous les mots, c'était bien sûr avec... C'était rempli d'arrière-pensée électorale. Écoutez, on a vu Nicolas Sarkozy très très vite être sur les lieux. Très vite après, Hollande est arrivé, et après Bayrou, et après les uns et les autres devaient surenchérir sur quel geste, qu'est-ce qu'il fallait faire, démontrer, pour bien montrer sa part d'humanité. Écoutez, il y a une démonstration à faire sur le fait qu'on soit chacun... profondément touché, meurtri par ce qui s'est passé. Moi, je crois pas. Je crois que tout ça, c'est des sentiments humains, des sentiments personnels. Et voilà, je ne vois pas ce que cette unité nationale et politique avait à faire avec tout ça.
Est-ce qu'il était nécessaire de faire une minute de silence dans les écoles pour expliquer aux enfants ce qui se passe ?
Moi, je crois que c'est ce qui est important, c'est d'expliquer. Ça, c'est sûr. C'est d'expliquer. C'est d'essayer, et encore, je ne sais pas tellement ce qu'on explique d'ailleurs.
On pose aussi la question professeur que vous êtes. Hein.
Je crois que les jeunes ont envie de discuter, ont envie de réfléchir, ont envie de se poser toutes ces questions. Donc ça, je pense que c'est utile. Bon, la minute de silence, pourquoi pas, mais voilà, l'important, c'est effectivement de réfléchir sur ce qu'est notre société, sur justement ce qu'elle est capable d'enfanter comme crime. Et comme violence.
Notre société qui produit ça, est-ce que c'est un problème d'intégration ?
Ah, pas du tout. Mais pas du tout. Mais quel est le problème d'intégration ?
Parce que c'est un jeune français qui a tiré sur des enfants français. Si, il est français.
Oui, non, mais moi, je vois pas le problème d'intégration. D'intégration de qui, d'abord ?
De gens d'origine étrangère qui se sentent pas forcément bien français et qui se retournent contre la France.
Non, je ne crois pas. Il faudrait lui demander s'il se sentait bien français ou pas. Non, non. Vous savez, les immigrés, quelle que soit leur origine, je peux vous dire qu'ils sont bien intégrés sur les mêmes chaînes de montage, dans les mêmes galères, dans le bâtiment, dans les mêmes entreprises. Ils bossent comme tout le monde. Ils payent des impôts. Ils sont intégrés, bien intégrés dans leur vie quotidienne. Voilà. Moi, mes voisins sont marocains, ceux de la porte d'à côté sont égyptiens et les autres sont colombiens. Hein, et on vit tous ensemble. Et on est confronté au même problème de transport et au même problème de bruit dans l'immeuble, hein, d'insonorisation. On est confronté au même problème de charge. Donc l'intégration, elle se fait par la vie de travailleurs. Et moi, justement, toute ma politique et ce que je pense, c'est qu'en réalité, on est tous intégrés. On a un sort commun quand on est travailleur et on est confronté au même problème. Et moi, j'aimerais que cette conscience-là, eh bien, elle devienne évidente.
Alors, on va parler aussi de la situation à l'extrême gauche, mais avant, une question qui va synthétiser un peu ce que vous avez dit depuis le début. Est-ce que le dénouement de ces tueries de Toulouse et de Montauban marque un tournant dans la campagne, va marquer un tournant dans la campagne ?
Ah, ça, c'est l'avenir qui le dira. Moi, je ne sais pas. En tout cas, on voit bien que là, Marine Le Pen, elle boit du petit lait. Voilà. J'espère que ça durera pas.
Vous pensez que ça va lui profiter ?
Non, mais ça, j'ai pas de boule de cristal. Moi, je n'en sais rien. Dans tous les cas, ces idées-là, je les combats. Je les combats parce que je pense aussi que justement, c'est un poison. Hein, c'est toujours de nous diviser, qu'on se regarde en chien de faïence. Tu viens d'où ? T'as quelle carte d'identité dans ta poche ? Et tes enfants et tes parents, ils étaient quoi ? Etc. Tout ça, c'est du poison qui nous divise. Et moi, je crois que face, au sort et y compris au recul qu'on impose aux travailleurs, eh bien, il faut qu'ils soient unis le plus possible, justement, pour se défendre.
Alors, on poursuit sur l'extrême gauche. Françoise Fressoz.
Lutte ouvrière avait recueilli un peu plus de 1% des suffrages en 2007. Là, vous êtes crédité de à peu près moins de 1%. Pourquoi est-ce que vous maintenez votre candidature ? Pourquoi est-ce que vous vous présentez à la présidentielle ? Qu'est-ce que vous cherchez ?
Parce que j'ai un programme à défendre, moi aussi. J'ai des idées à défendre et à présenter aux travailleurs. C'est un programme de lutte. C'est un programme de lutte parce que c'est l'interdiction des licenciements. Hein, face à cette hémorragie quotidienne de fermeture d'usine et de licenciement, il faut mettre un garrot. Il faut mettre un garrot. Pour nous, c'est l'interdiction des licenciements. Parce qu'il faut aussi...
comment on arrive à l'interdiction des licenciements ?
C'est aussi l'augmentation des salaires et le fait qu'ils soient indexés sur les prix. C'est l'échelle mobile des salaires parce que tous les prix augmentent. On a encore eu des chiffres là concernant le gaz, l'électricité, concernant le diesel qui
mais
a augmenté 39% en 5 ans.
Jean-Luc Mélenchon qui défend un peu ce que vous dites. Donc est-ce que c'était pas plus efficace d'aller avec lui plutôt que de faire deux candidatures ? Parce qu'il y a vous et puis il y a M. Poutou aussi.
Mais vous savez, d'abord, c'est pas en réalité le même programme et je l'ai bien dit, moi c'est un programme de lutte. Parce que justement, la grande différence, c'est que justement, je ne dis pas comme Jean-Luc Mélenchon, votez pour moi et vous aurez le SMIC à 1 700 euros. Alors, et d'ailleurs, il le dit, 1700 euros en fin de mandat.
Fin de mandat.
Mais moi, je ne dis pas ça. Ça, je ne dis pas. Je ne le dis pas parce que c'est une escroquerie, parce que c'est mentir aux travailleurs. Non, pour avoir le SMIC à 1700 euros, il va falloir se battre, et se battre sacrément. Parce que pour imposer ça au patronat, eh bien, il faut établir un rapport de force en réalité. Un rapport de force au moins de l'ampleur de celui qui a été établi en fait en mai-juin 1936, dans ces grèves générales, dans ces grandes manifestations.
Mais quand Mélenchon était dans la rue en disant il faut faire la révolution citoyenne, ça rejoignait un peu ce que vous dites.
Absolument pas, vous voyez, la grande différence aussi, c'est que moi je suis... communiste révolutionnaire, et pour moi c'est pas l'insurrection citoyenne ou la révolution citoyenne qu'il faut, c'est la révolution sociale, c'est-à-dire que qu'on combatte cette société qui est basée sur l'exploitation.
Lui, dit, c'est l'insurrection qu'il veut.
Ouais. Lui il parle de citoyen, de citoyenne, ouais. Hein, il parle de citoyenne et toujours en allant bien voter, en glissant le bon bulletin dans l'urne.
Mais vous,
et
nous êtes à la présidentielle, donc vous demandez aussi le bulletin de vote quand même.
Oui, c'est sûr, parce que je pense qu'au travers du bulletin de vote, on peut s'exprimer. C'est très important. Il n'y a pas de raison de ne pas s'exprimer.
C'est ce que vous avez dit aux maires qui vous ont donné leur parrainage. Vous avez dit, je suis pour la révolution.
Mais vous savez, les maires nous connaissent très bien. Mais bien sûr, qu'est-ce que vous croyez qu'on cache aux maires quand nous sommes communistes révolutionnaires? Vous croyez que les maires ne connaissent pas Lutte ouvrière depuis 1974, qu'Arlette Laguiller se présente aux élections et que notre courant existe et actif au quotidien dans les quartiers populaires, dans les entreprises? Vous croyez que on est des inconnus pour les maires? Non, pas du tout. Et oui, c'est une politique qui n'a rien à voir avec celle de Jean-Luc Mélenchon. Justement, parce que c'est pas des illusions gouvernementales que nous développons. C'est la conscience qu'il va falloir se défendre par nous-mêmes.
Qu'est-ce que vous pensez de la campagne de Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier, place de la Bastille? Il y avait des milliers de personnes. Et donc ça vous attire pas, vous?
Non,
ça ne va pas du tout.
Moi, je pense que c'est une réussite. C'est une réussite pour eux. Hein, et effectivement, ils rassemblent ce courant, mais qu'on connaît, qui n'est pas nouveau non plus. Tout le monde avait enterré le Parti communiste.
Nous jamais,
parce que nous, les militants communistes du Parti communiste, on les connaît. Ils sont sur le terrain, ils sont dans les entreprises, et on est souvent d'ailleurs avec eux dans les grèves et dans les manifestations. Donc nous, on a toujours su que le Parti communiste n'était pas mort, hein, comme il l'était annoncé à chaque fois par les médias. Donc ce courant-là, il existe évidemment, et la cheville ouvrière de ce rassemblement, c'est quand même bien le Parti communiste. Maintenant, moi, ce que je vois, c'est que c'est le reflet aussi du rejet de la politique de Sarkozy, c'est le reflet aussi d'une méfiance vis-à-vis de Hollande. Mais en réalité, Mélenchon et Hollande se divisent le travail. C'est la division du travail entre Hollande et Mélenchon.
Parce que
Hollande s'adresse au centre, se fait très rassembleur, présidentiable, et puis Mélenchon tient un discours plus radical pour effectivement raccrocher au char finalement du futur gouvernement. Et Jean-Luc Mélenchon...
C'est un traître.
Jean-Luc Mélenchon, vous savez, enfin, je ne sais pas s'il faut que vous révisiez vos fiches, mais Jean-Luc Mélenchon n'a jamais été communiste.
Jamais. Il était lambertiste puis socialiste.
Jamais été communiste. Il est, je crois que ça a été le premier plus jeune sénateur socialiste. Ensuite, il a été ministre de Jospin, et depuis qu'il a eu la révélation que le Parti socialiste décidément ne menait pas la politique que lui souhaitait, eh bien, il a pour modèle François Mitterrand. Voyez. Alors bon, personne n'aurait fait l'affront à François Mitterrand de lui dire qu'il était communiste parce qu'il était soutenu par le PC, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui,
François Mitterrand n'était pas lambertiste, n'a jamais été lambertiste, qui était le cas
Mélenchon. Vous voyez que voilà, Jean-Luc Mélenchon, dans sa vie politique, il a effectivement peut-être beaucoup évolué, mais le fait est qu'aujourd'hui, son modèle, et il ne s'en cache pas, c'est François Mitterrand. C'est ça son modèle. Et justement, moi, ce que je tiens à dire aux travailleurs, c'est que la politique de Mitterrand, ils l'ont vécu, hein. Ils l'ont subi. Il y a eu beaucoup d'espoir, beaucoup d'illusions. Vous savez, François Mitterrand qui disait qu'il allait changer la vie pour les travailleurs. Et même, il parlait de rupture avec le capitalisme, François Mitterrand. Donc effectivement, il a suscité beaucoup d'espoir dans la classe ouvrière. Et puis beaucoup se sont sentis trahis par la politique menée au gouvernement par Mitterrand.
Est-ce qu'aujourd'hui vous dites...
Et par Jospin ensuite.
Est-ce qu'aujourd'hui vous dites Hollande-Sarkozy, c'est pareil?
Ah là, d'accord, on change complètement. Au pouvoir, et en ce qui concerne le sort des travailleurs, et ce qui est plus essentiel pour eux, c'est-à-dire leur emploi, leur salaire, leur retraite, leurs conditions de vie quotidiennes, je pense effectivement que ça sera la même politique. Et vous savez, Hollande ne s'en cache pas. Hein. Hollande nous explique qu'il faut d'abord et avant tout payer la dette. C'est-à-dire qu'on a une dette vis-à-vis des banquiers, la priorité, elle sera pour eux.
Vous annulez la dette, vous?
Moi, je dis que la dette, c'est d'abord et avant tout la dette de la bourgeoisie, la dette des banquiers, la dette des plus riches. On a fait de l'assistanat en grand pour les grands groupes capitalistes. C'est eux qui ont creusé les déficits. Alors cette dette, c'est à eux de la payer, c'est à eux de la rembourser.
Donc pas d'impôt sur les...
Moi, je pense
pas d'impôt
que...
sur le peuple et on fait payer les riches.
Vous savez, les travailleurs, ils s'endettent au quotidien pour payer la voiture, le logement, des fois même pour se soigner. Et ils doivent rembourser leur dette. Mais moi, je ne vois pas pourquoi les travailleurs devraient rembourser la dette du grand patronat ou des banquiers. C'est à eux de rembourser cette dette. Et en plus, c'est eux qui ont l'argent. Alors ça tombe bien. Qui s'arrange avec les banquiers, ils remboursent la dette. Mais il n'y a
la
pas
dette, elle a permis
de
payer
sacrifice.
Les fonctionnaires et de faire investir dans le pays.
Oui, mais pourquoi c'est-elle... vous savez, il y a eu 500 milliards de dettes supplémentaires depuis les 4 années.
Pour éponger les années de crise
500
aussi.
Milliards, je peux
éviter
vous dire.
Qu'il y ait les pertes de pouvoir d'achat.
Il n'y a pas eu un euro qui est allé dans la retraite, pas un euro qui est allé dans les hôpitaux. Sur tout ça, on a fait des économies. Tout ça, on l'a comprimé. Les travailleurs n'ont pas vu la couleur, effectivement, de cette dette. Donc ce n'est pas la leur. Et moi, j'appelle les travailleurs à ne pas céder face à ce chantage au nom duquel il faudra accepter quoi ? Qu'il y ait moins d'infirmières, moins d'aides-soignantes, moins d'enseignants ? Non, il n'en est pas question.
Barrière.
Vous dites Hollande, Sarkozy, c'est la même chose sur la dette et sur le reste aussi ? Et vous ne prendrez pas position avant le second tour ?
Sur la dette, il n'y a rien contre les licenciements. Sur les retraites, regardez même sur les retraites. Hollande s'en tient, mais vraiment au strict minimum. Au strict minimum. Et plus on se rapproche d'ailleurs de l'échéance de l'élection, plus on se rend compte que les 60 ans, ça sera pour une infime minorité de travailleurs en réalité.
Vous ne prendrez pas position.
Donc le second tour viendra en son temps. Et moi, ma campagne pour le premier tour, ça a justement consisté à dire aux travailleurs, en réalité, votre sort, il ne dépend pas du futur... locataire, l'Élysée, non, il dépend de la crise, de son aggravation, et que il dépend en réalité de cette politique patronale qui consiste, depuis que la crise a démarré, à faire payer les frais de la crise aux travailleurs. Regardez quand même comment ceux qui sont responsables de cette crise, parce qu'ils dirigent l'économie, s'en sortent indemnes avec toute leur fortune, avec tous leurs profits, et finalement ils l'ont fait payer aux travailleurs avec leur emploi, avec leur salaire, avec leur retraite.
Donc ça veut dire que vous préférez que ce soit Nicolas Sarkozy qui reste président plutôt que ce soit Hollande qui soit...
Vous en tirez des conclusions assez curieuses, là,
non.
Franchement. Écoutez, moi, ce que je sais, c'est que ça peut être pire, y compris avec François Hollande au gouvernement. Ça peut être pire parce que si la crise s'aggrave, eh bien les coûts tomberont. Et il ne faut pas croire que ce qui se passe pour les travailleurs grecs, on en est, nous, complètement protégés.
Le politique n'a plus aucun pouvoir.
Écoutez, cette crise, elle le montre. De façon claire et nette, c'est les marchés financiers qui décident. Vous savez, cette réforme du droit du travail en Italie, elle a été dictée par la BCE, par le FMI. Donc, vous voyez, en réalité, et les plans d'austérité, y compris Fillon a mis en place, dictés encore là par les marchés financiers, par les plus grands...
Je crois que c'est en 1969 que Jacques Duclos disait, c'est blanc bonnet blanc. Vous dites aussi ça ?
Moi, je dis au pouvoir, au gouvernement. Ouais. Je vois bien que la gauche, elle n'a pas le même cynisme que la droite, y compris dans la campagne, pas le même cynisme, elle s'adresse pas au même électorat. Elle ne parle pas des chômeurs, de ceux qui sont tombés dans le chômage et qui désespèrent de retrouver un emploi. Elle ne parle pas d'eux comme des assistés. C'est ce que fait Nicolas Sarkozy à longueur de journée. Donc je vois bien cette différence-là dans les mots, dans cette campagne.
Mais vous choisirez entre les deux ou pas ?
Au pouvoir. Et je sais bien aussi d'ailleurs que Hollande, il est pour le mariage homosexuel. Chose que je partage. Qu'il est pour un certain nombre d'avancées sociétales. Mais... vous savez, aujourd'hui, pour les travailleurs, l'essentiel, c'est quand même leur emploi. Parce que quand on perd son emploi, on perd tout quand on est travailleur. On perd tout. On est incapable, effectivement, de rembourser ses factures, d'assurer des études de ses enfants. Enfin bon, c'est la descente, effectivement, vers la misère. Donc c'est l'emploi, ce sont les salaires et ce sont les retraites qui comptent, d'abord et avant tout. Et là-dessus, force est de constater que Hollande ne propose rien aux travailleurs, ne s'engage à rien, tout simplement parce qu'il ne veut pas contraindre le patronat. Et il faudrait le contraindre de prendre, justement,
Pour mener votre révolution, finalement, la configuration Sarkozy au pouvoir, Hollande dans l'opposition, un peu moins cynique, c'est plus favorable que l'inverse.
Mais non, mais attendez, nous, on n'a pas ce genre de calcul-là, de stratégie. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Vous n'avez pas de stratégie pour arriver à la révolution ?
Mais vous savez, la révolution, c'est jamais les révolutionnaires qui les déclenchent, c'est les patrons qui s'y chargent, qui s'en chargent très très bien.
On participe aux élections, j'imagine que ça fait partie de votre stratégie.
Là, mais ça fait partie de notre de la vie de tout militant. Vous savez, les militants passent leur journée à défendre leurs idées, à essayer de convaincre. Il n'y a aucune raison pour qu'au moment des présidentielles, ils se taisent. et pour qu'ils ne défendent pas leurs idées, pour qu'ils mettent leur poing dans leur poche, leur colère dans leur poche, leur programme dans leur poche. Il n'y a aucune raison à cela. Donc, participer aux élections présidentielles, ça a toujours été une tradition,
y compris les communistes révolutionnaires. Au pouvoir, nous, Hollande dans l'opposition.
Ce mot stratégie, j'avoue que je ne l'aime pas du tout. Nous, notre problème, c'est effectivement comment faire face, répondre aux besoins qui sont urgents et vitaux aujourd'hui des travailleurs. Comment répondre à cela? Et pour nous,
alors, eh bien, il y a des mesures à retenir de votre projet là-dessus, c'est quoi?
L'interdiction des licenciements et l'indexation des salaires sur l'inflation.
Mais comment on fait pour interdire les licenciements?
Eh bien, par une loi, on la pose, on contraint, on le décrète. Mais vous savez, on est capable de décréter des trêves hivernales contre les expulsions locatives. Eh bien, voilà ce qu'il faudrait faire dans cette période de crise, décréter effectivement l'interdiction des licenciements. Parce que, encore une fois, c'est condamner les travailleurs. Les mettre sur le carreau, c'est les condamner aujourd'hui, les condamner à la misère. Il est hors de question d'accepter cela. Et c'est effectivement... Vous me dites, ah, mais les entreprises peut-être ne peuvent pas ou je ne sais trop quoi.
Bah, elles font faillite, hein, si vous gardez.
Oh, elles font faillite. Oh, vous croyez qu'ArcelorMittal va faire faillite, honnêtement? Que Petroplus va faire faillite? Vous pensez que PSA va faire faillite s'il ne ferme pas Aulnay-sous-Bois? Non, pas du tout. Simplement, ces actionnaires seront peut-être un tout petit peu diminués dans leurs dividendes.
On va parler d'un autre actionnaire de l'extrême gauche.
Ça ne les mettra pas en faillite, c'est pas.
Marie Malouine.
Dernière question, on a parlé de Jean-Luc Mélenchon, mais Philippe Poutou, pourquoi vous n'êtes pas associé à lui? Est-ce que ça aurait, il n'est pas très différent de vous?
C'est vrai, c'est Philippe Poutou, c'est le plus proche de nous, effectivement. Effectivement, il est, lui, véritablement à l'extrême gauche, oui, en l'occurrence. Voilà. Et plus fort, non, c'est pas une question d'arriver au plus grand score. Nous ne sommes pas pour le parti unique, voilà, ni à l'extrême gauche, ni à gauche. Nous pensons qu'à l'occasion de l'élection présidentielle, il doit y avoir un grand débat et tout le monde doit pouvoir s'exprimer, y compris, il doit y avoir la démocratie, le pluralisme, y compris à l'extrême gauche, les travailleurs choisiront. Il y a une différence. Bah, la première différence, c'est que nous, nous revendiquons effectivement du communisme.
Merci, c'est la fin de Question d'Info. Merci. Nathalie Arthaud d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous être fidèles et à la semaine prochaine. Merci.
Pour voir ou revoir cette émission, rendez-vous sur lcpan.fr.